En l'occurrence, si Marie de Médicis et Richelieu ont joué un rôle dans la fabrication du décor urbain de Paris, c'est surtout de Haussmann qu'il m'a été demandé de vous parler aujourd'hui. Alors, qui est cet homme? Il a son boulevard, on croit le connaître. Beaucoup de gens, parmi les jeunes générations, lorsqu'on leur demande qui est Haussmann, ne savent pas très bien qui est ce personnage. Alors parfois, quand on accepte d'émettre une hypothèse, on dit « c'était un architecte, c'était un urbaniste ». Eh bien non, c'était un préfet. Et le mariage, si je puis dire, de Haussmann avec Paris, le mariage sur le plan opérationnel, car Haussmann est né à Paris, se produit le 29 juin 1853. Ce jour-là, Georges Eugène Haussmann, un homme de grande stature, il mesure environ 1m90, il a un grand collier de barbe, il a une forte stature et très imbu de lui-même. Ce jour-là, donc, il est au petit château de Saint-Cloud, disparu depuis, qui était l'une des résidences de Napoléon III, alors régnant. Et il attend dans l'antichambre parce qu'il va être reçu avec un certain nombre d'autres personnages à déjeuner par l'empereur, à déjeuner, mais ce n'est pas uniquement à déjeuner, il y a une prestation de serment. Georges Eugène Haussmann, en effet, s'est engagé tout jeune dans la carrière préfectorale. Il a été préfet du Var, département qui, à l'époque, était un département frontalier. Il a été préfet de Lyon, il a été surtout préfet de la Gironde à Bordeaux, et il vient justement de Bordeaux, car il a reçu une dépêche quelques jours auparavant qui lui annonce qu'il est nommé préfet de la Seine. La Seine, ce département qui n'existe plus, qui avait été créé à la Révolution française et qui correspondait, grosso modo, à Paris, plus les trois départements de la première couronne qui sont aujourd'hui les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Il est nommé préfet de la Seine, c'est le plus beau poste dans une carrière préfectorale, c'est la consécration d'une carrière. Et il va donc participer au déjeuner et à la cérémonie de prestation de serment dans laquelle le ministre de l'Intérieur, qui s'appelle Persigny, qui est celui qui a conseillé à Napoléon III de nommer Haussmann préfet de la Seine, officie en demandant à chaque préfet successivement de prêter serment de fidélité à la Constitution et à l'empereur. Et Haussmann est le premier, car il est le plus ancien, dans le grade le plus âgé, et il prête donc serment. La cérémonie terminée, Napoléon III emmène Haussmann dans son cabinet de travail et lui montre un plan de Paris qu'il a élaboré lui-même. La base du plan, naturellement, il ne l'a pas élaboré, mais sur ce plan, il a indiqué qu'il y a des traits de couleur dans tous les sens. À quoi correspondent ce plan et ces traits de couleur? Napoléon III, avant de devenir Napoléon III, a été président de la République, le prince président, élu à la fin de 1848, et qui a donc occupé l'Élysée, résidence des présidents de la République, à partir du 1er janvier 1849. Avant ça, il était en exil à Londres, après avoir connu les prisons du roi Louis-Philippe. Pendant son exil à Londres, il a littéralement découvert, disons, la modernité. Je crois qu'il avait dans le sang l'esprit du progrès du monde moderne. Il était très proche de cette philosophie qui était le saint-simonisme à l'époque, à qui l'on doit beaucoup de grandes initiatives dans le domaine économique, dans le domaine bancaire, dans le domaine financier, dans le domaine de l'aménagement. Ferdinand de Lesseps lui-même était un adepte du saint-simonisme et c'est en vertu des principes du saint-simonisme qui s'est lancé dans l'aventure du percement du canal de Suez. Et Louis-Napoléon Bonaparte, qui n'est alors qu'un exilé, découvre donc à Londres, non pas le saint-simonisme, mais les réalités de la révolution industrielle. Et une révolution industrielle multiforme, ce sont les chemins de fer, c'est la grande industrie métallurgique, c'est une agriculture également qui est une agriculture extensive, fondée sur l'utilisation de grandes techniques modernes. Et surtout, il découvre Londres et l'urbanisme parisien. Et il se jure que lorsqu'il sera empereur des Français, parce qu'il n'en a jamais douté, il fera de Paris une seconde capitale mondiale, peut-être pas l'égale de Londres, parce qu'il faut respecter cette Angleterre qui a eu raison de l'oncle Napoléon Ier autrefois, mais qui pourrait servir presque de seconde, d'émule par rapport à Londres. Et il trace le plan de cette future capitale et il emporte ce plan avec lui lorsqu'il revient à Paris en 1848 pour se faire élire député puis président de la République. Alors, c'est ce qu'il explique à Haussmann et il lui dit « Voilà mon plan et je compte sur vous pour l'exécuter ». Alors, Haussmann n'est pas le premier préfet de la Seine de Napoléon III. Il y en a eu un autre qui a été nommé en 1849 lorsque Louis-Napoléon Bonaparte est devenu président de la République. Il s'appelait Berger, il a sa rue dans le quartier des Halles. Et Berger a été un préfet de la Seine éminent, mais récalcitrant. Qu'est-ce qui s'est passé? Napoléon III explique à Haussmann, voilà ce plan, d'abord est-ce que vous l'acceptez et est-ce que vous allez vous y consacrer? Ne serait-ce que par courtisanerie, Haussmann proclame son enthousiasme. Mais Napoléon III lui explique les difficultés de la tâche. Il lui dit, dans l'ensemble, la transformation de Paris est bien acceptée par la population, à l'exception de résistances farouches de la part de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie. De fait, Berger appartenait à la grande bourgeoisie parisienne. Et pourquoi ces résistances? Mais pour des questions d'argent. En effet, à cette époque, je crois qu'il est important de le rappeler, nulle part on empruntait pour faire des travaux urbains, des travaux d'édilité. Dans une ville, on empruntait lorsqu'il y avait par exemple la peste ou le choléra. Alors à ce moment-là, il fallait faire face et on empruntait pour cela. On empruntait quand le souverain avait le bonheur de mettre au monde un fils ou une fille. Ça coûtait plus cher de mettre au monde, pas de mettre au monde un fils, mais ça coûtait plus cher aux villes de proclamer leur soutien au monarque et à son épouse si c'était un garçon que si c'était une fille. Alors en pareil cas, ben, évidemment, on avait 9 mois pour se préparer, mais on empruntait. Et on faisait des travaux, ben, j'allais dire au petit bonheur la chance, lorsqu'il y avait un excédent, eh bien, on donnait quelques coups de pioche, on rajoutait quelques mètres d'égout, mais il n'y avait jamais de possibilité d'exécuter des programmes d'ensemble. Or, auprès de Napoléon III, Persigny, le ministre de l'Intérieur, et des représentants de l'état d'esprit saint-simonien disent « il faut emprunter, il faut des emprunts massifs ». Alors évidemment, ça paraît scandaleux. On emprunte déjà en France, comme on emprunte en Angleterre, pour faire des chemins de fer. Mais dans les chemins de fer, il y a une contrepartie financière. Après, il y a des passagers, il y a des marchandises qui payent. Quelle contrepartie voulez-vous demander lorsque vous allez percer une avenue ou aménager un boulevard? Et Persigny et les Saint-Simoniens disent « on ne voit pas les effets tout de suite, mais on va les voir à moyen et à long terme, parce que ces dépenses-là sont des dépenses productives qui vont, alors je prends un mot moderne, qui vont faciliter la mobilité. À partir du moment où la mobilité va être facilitée, les initiatives vont se multiplier, et tout ceci va retomber sous forme de taxes normales, sans aucune nécessité d'accroître le chiffre, la pression fiscale, de taxes normales qui vont profiter à l'État. » Et donc Napoléon III dit, voilà la raison de l'opposition de l'aristocratie, de la grande bourgeoisie, qui ont la hantise de la dette, de l'emprunt, veulent épargner, veulent accumuler, et me font le reproche de vouloir pousser Paris à la ruine. Alors Haussmann, ça c'est une deuxième partie de son enthousiasme, proclame à l'empereur qu'il va arriver à surmonter cette opposition. Alors, de fait, donc, Haussmann a comme premier souci, souci le plus immédiat, de pouvoir dégager les moyens financiers qui vont permettre de lancer la modernisation de Paris. Alors, je passe rapidement sur les moyens de faire. Ils sont pas très, très, très démocratiques, mais on n'est pas en démocratie, hein, ce début de Second Empire. Il n'y a pas de, camp de concentration pour la grande bourgeoisie. Mais enfin, les membres du Conseil municipal de Paris, qui ne portent pas le nom de Conseil municipal, mais de Commission de Paris, ils sont tous nommés. Parce qu'ils sont nommés, ils ont à cœur de prouver leur indépendance. Alors, les uns, on les achète avec une décoration. Les autres, on les achète avec quelques petits cadeaux financiers. Et puis d'autres, ils ont le malheur d'avoir un dossier, comme on dit. Alors, on exploite le dossier et ça permet d'obtenir ou bien leur soumission ou bien leur démission. Et c'est ainsi que Haussmann parvient, en l'espace de quelques semaines, à obtenir un Conseil de Paris absolument enthousiaste à l'égard de toutes les mesures qu'il va proposer et qui sont de très grands emprunts. Alors, ces emprunts, au début, il passe très très mal, parce que aristocratie, grande bourgeoisie, c'est la grande banque traditionnelle. Ce sont les Rothschild, on ne va pas leur jeter la pierre, mais ils sont les leaders de la grande banque à cette époque, et ils sont très hostiles à Napoléon III et à ses idées. Et alors, on trouve difficilement de l'argent, on voit apparaître des nouveaux venus, d'anciens collaborateurs de Rothschild, qui s'appellent les Péraires, et qui, eux, cherchent à drainer de l'épargne. Alors, les premiers temps, on emprunte à 10 ans, dans des conditions difficiles. Le temps passant, avec les grands travaux et les résultats obtenus par les grands travaux, la ville de Paris va finir par emprunter sur des durées de 50 ans. Haussmann quitte ses fonctions en 1870, la ville de Paris finit de payer sans difficulté les emprunts Haussmann en 1920. Et autre constatation, les rentrées fiscales de la ville de Paris ont été multipliées pendant l'époque Haussmann, pendant les 16 ans et demi où il est resté en fonction, par environ 15, sans augmentation de la pression fiscale. Donc, donnant une démonstration éclatante à la cohérence et à la vérité de ces dépenses productives que nous appelons des investissements aujourd'hui. Alors, ça aurait pu mal tourner, et d'autant plus qu'il y avait des réticences au début, mais voilà, finalement, c'est tombé du bon côté, et la théorie des investissements urbains est très importante. Et elle a eu une très grande portée, puisque aujourd'hui, je crois que ce ne sont pas mes amis urbanistes et tous ceux qui pratiquent le développement de la ville qui vont me contredire, l'investissement urbain est un investissement qui, justement, présente ce caractère de risque, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va générer, qu'est-ce qu'il va donner, puisqu'il y a rarement une recette immédiate au bout. Eh bien, depuis cette époque-là, il s'est, en effet, généralisé dans les esprits comme dans les pratiques. Deuxième problème de Haussmann, c'était qu'allait être l'attitude de la bourgeoisie, moyenne et grande, en tant que propriétaire d'immeubles, puisqu'il allait falloir acquérir des terrains, voire exproprier pour réaliser les voies nouvelles. Instruction de Napoléon III à Haussmann était très claire, vous payez le plus cher possible les expropriations. Alors évidemment, on comprend l'enthousiasme de beaucoup de propriétaires parisiens qui ne demandaient qu'à être expropriés. Les caricatures de l'époque, les dessins de Daumier nous montrent justement les expropriés faisant fortune en quelques semaines ou quelques mois. Alors souvent en produisant des faux documents, des fausses comptabilités de sociétés de commerce qui montrent que dans un taudis immonde, on faisait des profits fabuleux et donc permettent d'augmenter la valeur de l'expropriation. En tout cas, le résultat était là, les gens se précipitent pour apporter les terrains. Alors, ensuite, il y avait les moyens techniques et les moyens humains. Sur le plan technique, vous savez, on travaille avec la pelle et la pioche, et puis le petit chemin de fer de chantier sur lequel circulent les tombereaux. De ce point de vue-là, la seule chose qu'on peut faire si l'on veut donner de l'élan et accélérer les travaux, c'est embaucher un maximum d'ouvriers. Haussmann aura de façon régulière environ 25 000 ouvriers sur les chantiers de Paris. Napoléon III lui fait le reproche de ne pas aller jusqu'à 50 000. Mais Haussmann dit 50 000, ça devient vraiment beaucoup. Et puis les ouvriers sur les chantiers, il faut quand même s'en méfier un tout petit peu. On ne sait jamais ce qui peut leur prendre. 25 000, c'est déjà très bien. Alors, tout ceci fait que les débuts de Haussmann, de la préfecture de Haussmann, de 1853 jusqu'à 1860, sont fulgurants et satisfont tout le monde. On le lui dira avec force par la suite, lorsque la roue va commencer à tourner. Et la roue tourne pourquoi ? Parce que Haussmann reçoit mission de Napoléon III d'étendre les limites de Paris. Et c'est le moment où Paris passe de 12 arrondissements à 20 arrondissements, il double de surface, et il y a donc c'est ce que nous appelons toujours les arrondissements extérieurs, les arrondissements périphériques du 13e au 20e, qui sont des territoires nouveaux, très peu peuplés, mais dans lesquels Haussmann va en quelque sorte anticiper le développement futur. Et ça, c'est un autre aspect qui est très important. Haussmann, il répond à la volonté de Napoléon III de moderniser Paris, qui est une ville médiévale, une ville infecte, une ville insalubre, une ville dans laquelle prospèrent ce que nous appelons aujourd'hui les marchands de sommeil et que Balzac décrivait sous le nom de garni, immonde. Et cette ville, tout le monde demandait sa modernisation. L'un des premiers à la demander, c'était Voltaire au milieu du XVIIIe siècle. Puis la Révolution française avait mis en place une commission dite des artistes, c'est-à-dire des hommes de l'art. Et puis Napoléon Ier avait entamé des travaux. Et puis après ça, le retour de la royauté avait représenté ben, finalement, une espèce de stagnation. Il y avait eu un grand préfet sous Louis-Philippe qui s'appelait Rambuteau, il a fait une rue, et puis quelques petits travaux par-ci, par-là. Pourquoi ? Parce que justement, Rambuteau, comme Louis-Philippe, comme leur entourage, se faisait gloire de ne pas dépenser. Donc à ce moment-là, on ne pouvait pas moderniser Paris. Et il y a cet élan de l'opinion publique. Napoléon III avait raison quand il disait à Haussmann, l'opinion est favorable, et simplement, ben, il y a des blocages au sommet. Et tout ceci, effectivement, est justifié par l'accueil qui est fait à Haussmann. Lorsqu'il étend les limites de Paris, l'opinion va se renverser. Parce qu'il réalise des travaux dans ces nouveaux territoires, et les Parisiens, qui sont de loin les Parisiens anciens, si je peux dire, qui sont de loin les plus nombreux parmi les contribuables, disent, enfin, qu'est-ce qui lui prend maintenant de dépenser de l'argent dans des terrains vagues ? Et il y a, à la fin de l'Empire, un avocat républicain, pas très connu à cette époque encore, qui s'appelle Jules Ferry, qui publie une série d'articles qu'il rassemble dans un petit livre qu'il appelle, de façon assez drôle, « Les contes fantastiques d'Haussmann ». Allusion aux contes fantastiques d'Haussmann. Bon, et les contes, ça ne s'écrit pas de la même manière, c'est les contes financiers. Et Jules Ferry dit exactement ce que je viens de vous dire. Il dit, monsieur le préfet, quand vous avez assaini le vieux Paris, quand vous avez fait la rue de Rivoli, quand vous avez créé le boulevard de Sébastopol, le boulevard Saint-Michel, tout le monde a été pour, tout le monde a dit bravo. Mais quelle mouche vous a piqué d'étendre ces travaux ensuite à des terrains vagues, de l'autre côté de la barrière de l'Étoile où il n'y a personne, sur la plaine des Ternes où il n'y a strictement personne, sur le territoire des Chiffonniers qui est aujourd'hui le 13e arrondissement. Mais on est dans l'absurde, mais ça fait naître aussi les soupçons. Est-ce qu'il n'y a pas derrière la corruption, les enveloppes des entreprises de travaux publics qui disent au préfet, donnez-nous encore des contrats, moyennant un certain nombre d'avantages. Alors, la roue va tourner, mais ça n'empêchera pas Haussmann de persévérer jusqu'au moment où, au début de 1870, Haussmann est tellement devenu le symbole de l'arbitraire, de l'autoritarisme, etc., que Napoléon III va le remercier. Disons quelques mots alors de la réalisation elle-même. Ça, c'est des moyens, c'était ce que demandait Napoléon III à Haussmann. Mais en quoi consistait ce plan de transformation ? On va le résumer très simplement. Napoléon III avait été frappé en Angleterre par le rôle des chemins de fer et donc par le rôle des gares. Et il avait coutume de dire, les gares, c'est les ports du monde moderne. Il y a un certain nombre de gares qui sont des gares têtes de ligne à Paris et qui ne communiquent pas entre elles, puisqu'elles sont des têtes de ligne de réseaux concédés à des entreprises privées. Et il faut les faire communiquer, et il faut les faire communiquer avec le centre, puisqu'elles sont toutes situées à la périphérie de l'urbanisation parisienne de l'époque, c'est-à-dire à la périphérie de ce que nous appelons aujourd'hui les boulevards extérieurs, qui étaient occupés par une barrière douanière appelée le mur des fermiers généraux. Et il a dessiné donc des grandes avenues destiné à les mettre en rapport. C'est le rôle du boulevard Magenta, de la rue Lafayette, du boulevard de Strasbourg, boulevard de Sébastopol, qui passe à travers l'île de la Cité, se continue par le boulevard Saint-Michel, la rue de Rennes, etc. On ne va pas les énumérer. C'est ça l'objet de ces grands plans. Lorsque Paris va s'étendre, eh bien on va prolonger et on va amplifier ce mouvement. Ça, c'est la base. Là-dessus, il y a quelque chose qu'ajoute Haussmann. Haussmann va apporter d'abord le culte de l'eau. C'est un homme qui se baigne deux fois par jour, ce qui est scandaleux à l'époque. Hein. Et Napoléon III aussi aime beaucoup l'eau, il a découvert les vertus de l'eau à Londres, mais c'est quelque chose qui ne fait pas partie du patrimoine médical français à cette époque. Hein, les médecins expliquent qu'il ne faut pas se laver trop souvent, parce que ça abîme la couche protectrice que nous avons sur la peau et ça facilite la diffusion des maladies. En plus, tout le monde vante les vertus de la Seine, qui est évidemment aussi un égout à ciel ouvert. Alors, Haussmann sait trouver les ingénieurs des ponts qui vont concevoir un fabuleux réseau d'adduction d'eau potable, d'eau de source, parfois amenée de plus de 150 km de distance de Paris, et un formidable réseau d'égouts également qui capte alors les eaux pluviales, les eaux du nettoiement des rues, et puis plus tard ça va être les eaux également des égouts lorsque l'on décidera de la politique dite du tout à l'égout. Alors ça c'est un aspect qui est un aspect très important. Et que fait Haussmann en même temps qu'il réalise des voies nouvelles? Sous la chaussée, il y a les caniveaux, il y a les conduites d'eau et il y a les égouts. La conception d'organisation de la voirie, de cet espace public par Haussmann, ne s'arrête pas là. En bordure de la chaussée réservée aux voitures, voitures à cheval bien entendu à l'époque, il y a des trottoirs. Et ces trottoirs, ils vont apparaître de façon systématique le long de toutes les rues, ce qui n'était pas le cas encore à l'époque. Et ces trottoirs, on va évidemment les dédier au passage des piétons, mais je dirais en plus à la flânerie des piétons. Ça devient un élément de découverte et un élément de spectacle. Alors, pour le confort du piéton, on met des bancs, on plante des arbres d'alignement, on met des fontaines, on met des colonnes, ces colonnes dites colonnes Maurice qui vous donnent les informations culturelles, on met des kiosques, on met des installations sanitaires. Voilà. Et Paris devient effectivement, Paris qui est déjà une ville de badauds, devient une ville encore plus appréciée par les badauds parisiens, les badauds provinciaux et les badauds étrangers qui viennent voir ce renouvellement fantastique qui se passe à Paris. Et un dernier élément va participer de cet espace public. On ne pénètre pas à l'intérieur des maisons, les gens construisent comme ils veulent à l'intérieur. Mais il y a un décor des façades qui s'est organisé un peu avant haussmannien. Un peu avant Haussmann, on l'appelle haussmannien, mais c'est déjà à l'époque de Rambuteau qu'il apparaît. Mais bon, personne n'a jamais créé l'adjectif rambutéen, donc on reste sur l'haussmannien qui plaît toujours aujourd'hui énormément aux Parisiens ou aux non-Parisiens, puisque les agents immobiliers, spécialistes d'immobilier, vous diront que à superficie et localisation équivalente, quand vous avez de l'haussmannien, ça va entre 10% et 25% plus cher que le non-haussmannien. Alors, ce sont ces façades avec les balcons alternativement filants et isolés, avec cette profusion de cariatides, de statues, pas dans les quartiers les plus pauvres, bien sûr, mais dans les quartiers les plus aisés, et avec une règle qui est très importante, qui est la grande règle que Haussmann a imposée, il ne s'occupait pas d'architecture, mais la grande règle qu'il a imposée, c'était de dire il ne faut pas que les balcons se touchent d'un immeuble à l'autre, parce que ça va engendrer de l'uniformité, comme ceux qui existent à Londres. Donc il faut qu'il y ait une discontinuité, et quand vous regardez le paysage urbain parisien, vous voyez effectivement qu'il y a une discontinuité, il y a une harmonie d'ensemble et une discontinuité. Au passage, du point de vue architectural, deux choses qui sont je crois, importantes à noter. D'une part, la hauteur de l'immeuble parisien s'accroît. C'était indispensable puisque l'élargissement des rues et la création de rues nouvelles diminuaient la superficie disponible. Donc, on gagne 2 étages environ. Et puis, d'autre part, il n'y a pas d'architecture officielle. Mais il y a un extraordinaire consensus parmi les architectes. Vous avez des architectes de la ville de Paris, tous des grands prix de Rome. Haussmann joue l'institution. Donc, architecte, Grand Prix de Rome, mais ils travaillent aussi pour une clientèle privée, puis ils ont des copains, des amis qui sont des architectes qui ne travaillent pas pour la ville de Paris, mais pour la clientèle privée. Et alors, au fond, c'est qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui va être autorisé facilement? Ben voilà, voilà le dessin. Et comme la pression des besoins est fantastique, comme il y a beaucoup de mal logés, mais qui ont des moyens pour pouvoir payer un loyer convenable, eh bien, placer son argent dans des immeubles haussmanniens qu'on appelle des immeubles de rapport, le mot veut bien dire ce qu'il veut dire, ça devient une évidence. Et alors, pour le client privé qui a son architecte et qui lui dit « qu'est-ce qui marche aujourd'hui ?», l'architecte lui dit « voilà, c'est ça ». Et en plus, c'est la ville de Paris préconise ce genre d'immeuble et effectivement, ça marche. Alors, donc, ça, c'est un ensemble. Alors, aujourd'hui, on a pris l'habitude de dire bon, c'est au fond la première application d'un principe qui est celui du génie urbain. On fait les choses ensemble, tout ensemble, au lieu de faire par petits bouts, et il y a une véritable cohérence. À l'intérieur de ces voiries nouvelles, il y a un point dont on ne parle pas toujours suffisamment. Lorsque Haussmann arrive, il y a des compagnies qui sont des compagnies qui gèrent des transports en commun, qui gèrent des omnibus. Il y en a 17, et elles se font concurrence. Et Haussmann décide, vous allez vous organiser comme vous voulez, mais je ne veux plus voir dans 4 mois qu'une seule tête, une compagnie unique. Et c'est ainsi que naît la Compagnie Générale des Omnibus, derrière laquelle il y a d'ailleurs les frères Pereire, Et cette compagnie générale des omnibus, dont on peut dire qu'elle est, d'une certaine manière, l'ancêtre de la RATP chez nous. Alors, quel est l'avantage de n'avoir qu'une tête? C'est d'organiser des itinéraires, d'abord qui vont être respectés, puisqu'il n'y a plus de concurrence, donc les chauffeurs, les cochers ne vont plus avoir comme consigne de se voler respectivement la clientèle. Ils respectent les itinéraires. Ça permet d'organiser des correspondances et ça permet de faciliter les transports parisiens. Alors, ces transports ont une très grosse importance. Ajouter l'organisation des compagnies de fiacres, alors ce sont les ancêtres de nos taxis, et ajoutez-y le fait qu'il y a très peu de propriétaires de chevaux, j'allais dire privés. Hein. On se dit, oui, il y a beaucoup de chevaux dans Paris. Oui, il y a beaucoup de chevaux à cause des omnibus et à cause des fiacres, mais rares sont les gens extrêmement aisés qui se payent le luxe d'avoir leur propre écurie. Et donc, il y a la circulation. Et c'est ainsi que Haussmann considère qu'il a rempli les conditions qui avaient été fixées du point de vue de la théorie des dépenses productives. Alors, un dernier mot pour parler des moyens humains. J'ai parlé des moyens financiers, des moyens techniques, les moyens humains. Et j'ai dit au passage, les architectes sont tous des Grands Prix de Rome. De la même manière, Haussmann ne fait appel qu'à des ingénieurs des ponts et chaussées, polytechniciens bien entendu, et si possible des ingénieurs généraux des ponts et chaussées. Et il est entouré par une pléiade d'ingénieurs. Je crois que Haussmann n'était ni ingénieur ni architecte. Il avait surtout une grande qualité, c'était le sens de l'animation des hommes et des équipes. Par exemple, il allait toujours sur le terrain, il allait toujours inspecter les chantiers et discuter par-delà les hiérarchies avec les ouvriers qui maniaient la pioche et la pelle pour avoir un compte-rendu exact des situations. Haussmann s'en va au début du mois de janvier 1870 et l'Empire va s'écrouler quelques mois plus tard. Alors juste un petit mot, fabrication du décor urbain sous Haussmann, on n'en parle plus, elle va continuer sous ses collaborateurs. Il y a une extraordinaire continuité. Alors, je crois que l'un des hommes les plus importants dans les 20 années qui suivent, c'est quelqu'un qui n'est pas très connu du grand public, qui s'appelle Alphand, qui a été le directeur des espaces verts et des promenades, qui a été le directeur de la voirie parisienne, et qui est l'homme qui continue véritablement l'œuvre d'Haussmann. Il a toujours été républicain, il continue à être républicain, il est persona grata auprès du nouveau régime. Et le nouveau régime qui avait attaqué Haussmann parce que c'est de bonne guerre dans la politique, poursuit les travaux de Haussmann. Haussmann va survivre 20 ans à son éviction, il va écrire ses mémoires, il va avoir un moment difficile au moment de la chute de l'Empire. Et il décide à ce moment-là d'aller visiter un pays qui lui est cher, qu'il ne connaît pas, qui est l'Italie. Je crois qu'il fallait quand même dire quelques mots sur les rapports de Haussmann avec l'Italie. Haussmann ne connaît en fait de l'Italie jusqu'au moment où il devient préfet de la Seine et termine son mandat de préfet de la Seine. Il ne connaît l'Italie que par la Rome antique, par les études extrêmement solides qu'il a faites. C'est quelqu'un qui est féru d'histoire, mais qui est féru aussi de sciences naturelles, de géologie, de nature également, disons. Savez-vous que c'est lui qui a multiplié les marronniers dans la ville de Paris? C'est un petit détail, mais les marronniers qui sont toujours et de loin l'arbre le plus représenté dans les plantations de la ville de Paris. Il a également introduit le platane qu'il avait découvert quand il était préfet du Var. Mais enfin, le platane n'a pas la même cote que le marronnier pour des raisons d'adaptation climatique. Il avait donc une très solide culture. Il admirait beaucoup Rome. Dans les travaux qu'il a conduits, notamment en matière de fourniture d'eau, il se référait toujours aux exemples romains. Mais en fait, il ne connaissait qu'une Rome littéraire, la Rome républicaine impériale. Au moment de la chute de l'Empire, il y a un personnage dont il a fait la connaissance à Paris, qu'il a vu à plusieurs reprises, il s'appelle le Chevalier Nigra, le Cavaliere Nigra, qui est le représentant du roi d'Italie, qui joue un rôle important. Il est très près de l'impératrice Eugénie. C'est Nigra qui facilite la fuite de l'impératrice Eugénie au moment de la chute de l'Empire, les 3 et 4 septembre 1870. Et c'est Nigra qui donne deux passeports à Haussmann sous un nom d'emprunt, parce qu'on ne sait jamais les réactions de la population, pour lui permettre d'aller se rendre en Italie. Le deuxième passeport est pour sa maîtresse. Bon. Alors, il voyage pendant plusieurs mois en Italie, se rend à Rome, toujours incognito, Mais il avait quand même des amis italiens et des amis italiens le reconnaissent. On lui fait fête, restez monsieur Haussmann, aidez-nous à moderniser Rome. Alors il donne un certain nombre de conseils et il paraît qu'on lui doit la Via Nazionale. Cela dit, il n'est pas resté à Rome, il est rentré à Paris. On l'a appelé aussi à l'étranger, c'est tout à fait autre chose, c'est à Istanbul, ça n'a aucun rapport avec Rome, où il est resté quelques mois, mais d'où il est reparti, énervé par la bureaucratie ottomane. Et il a terminé ses jours tout simplement à Paris, membre de l'Académie des Beaux-Arts, où il avait été élu bien des années avant. Il disait en riant, je suis probablement le représentant des démolisseurs à l'Académie. C'est de l'autoflagellation qui n'est pas tout à fait exacte. Il n'a démoli aucune œuvre majeure, il était un homme de goût. Au passage, il a acheté l'hôtel Carnavalet, qui était une ruine immonde, pour le restructurer et en faire le musée de la ville de Paris qu'il est. Enfin bref, voilà. En tout cas, je crois que ce qui est important pour conclure, c'est de regarder comment Haussmann se trouve, je dirais, à l'intersection entre passé et avenir. Toutes les techniques qu'il a utilisées, les idées qui étaient là sur la table, c'était des techniques et des idées qui avaient cours, en tout cas en France, depuis 100 ans, depuis 150 ans et depuis probablement bien plus. J'évoquais Marie de Médicis et Richelieu tout à l'heure. Je crois qu'on peut dire que Henri IV est le premier roi urbaniste de Paris. Donc, on ne découvre pas l'urbanisme et le développement de Paris avec Napoléon III et avec Haussmann. Mais on a passé en quelque sorte la vitesse supérieure à ce moment-là, avec une ambition qui était une ambition que n'avait ni Henri IV, ni Marie de Médicis, ni Richelieu, bien entendu, ni même la Révolution française. Napoléon Ier avait esquissé de grandes ambitions, mais à Sainte-Hélène, pendant tout le moment où il était aux affaires, finalement, le souci des guerres, de la politique internationale l'avait emporté sur son souci réel de pouvoir embellir et moderniser Paris, puisqu'il avait le rêve, je crois que nous le savons tous, de faire de Paris l'autre capitale, Paris et Rome, le palais du roi de Rome également, qui devait s'élever sur la colline de Chaillot. C'était une idée de Napoléon Ier, il n'en a eu ni le temps ni les moyens. Et nous arrivons là à une époque qui est une époque beaucoup plus moderne, et une époque qui, justement, intègre les notions de mobilité qui n'apparaissaient jamais auparavant, qui intègre l'idée d'une globalité dans cette fabrication de ce décor urbain, avec également un autre aspect qui est le fonctionnement, la fête parisienne, a-t-on dit à plusieurs reprises, qu'incarne ce décor urbain. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre patience et j'espère que ces réflexions engendreront de nombreux débats, car Haussmann n'est pas un sujet facile et c'est toujours un sujet très contesté. Merci beaucoup.